歌董端。
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Ce soir, je suis avec Ludo et Christophe, bonjour à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Claude à la technique et Gilles toujours en micro avec vous pour l'émission donc d'ACA Gérance contre le chômage, tous les premiers vendredis de chaque mois. Voilà, donc ce soir, nous parlerons principalement, bien sûr, des manifestations étudiantes et lycéennes contre la loi El Khomri, donc la loi du travail, qui est une loi inique et insupportable pour nous. Nous parlerons éventuellement, s'il nous reste un peu de temps, des chiffres du chômage et de l'UNEDIC, mais sans doute que la loi va faire quand même un bon temps sur l'émission, d'autant qu'il y a eu la nuit debout, c'est quand même une première en France, à République, à partir de 18h le soir jusqu'à 5h du matin. Nous parlerons également des charges de CRS dans les manifestations précédentes, hein, qui ont précédé la dernière manifestation. Et donc, voilà, une bonne émission en perspective. Alors nous sommes heureux, comme sans doute l'a appris la presse, l'a dit la presse audiovisuelle et puis la presse écrite, effectivement, il y a eu quand même 1 200 000 personnes en France qui ont manifesté contre cette loi. On s'y attendait un peu, on s'attendait surtout à plus de personnes, mais il a plu et il y a eu beaucoup de vent, donc effectivement les gens ont du mal à descendre dans la rue. Ça n'empêche que 1 200 000 personnes, c'est quand même pas mal, finalement. Et on se demande pourquoi la loi n'est pas retirée encore aujourd'hui. Valls a promis de rencontrer l'UNEF pour en discuter avec eux sur certaines propositions qu'ils veulent faire. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que la loi soit retirée, bien sûr, puisqu'elle est apparemment une coquille vide. Donc coquille vide veut dire qu'elle est, voilà, il faut l'abandonner pour éventuellement en faire une seconde. Pourquoi pas réformer le code du travail, mais dans un autre sens, c'est-à-dire les 32 heures, etc., etc. Voilà. Votre opinion sur justement cette manifestation, la manifestation d'hier?
Je m'inscris en faux sur le fait que ce soit une coquille vide, mais que cette loi c'est une coquille vide, mais on en reparlera tout à l'heure.
Oui, là je crois que t'as.
Là t'as débordé
légèrement.
Non, quand je dis coquille vide, c'est-à-dire que Valls disait qu'ils avaient retiré des choses et que finalement ça n'avait plus beaucoup de sens.
Ouais, mais là il y a énormément. Je crois qu'on va consacrer une émission entière à la loi El Khomri, parce que derrière les grands discours, le processus de communication gouvernementale et les rapports de force politiques et divers qui sont en train de se mettre en place, derrière il y a tout un fond de pensée qu'il faut rappeler.
Très bien. On va essayer de décrypter cette loi finalement. Un décryptage, effectivement, puisqu'elle comporte un certain nombre de choses qui sont contre les salariés et pour les patrons, puisque, comme le MEDEF l'avait prévu, il y a un certain nombre de choses avec le CSE, etc., les lois Macron, c'était effectivement donner plus aux patrons pour embaucher. Et ils nous avaient promis 1 million d'embauches, on attend toujours. Donc, quelles sont maintenant les dispositions pro-patron qui sont dans cette loi et qu'il faut absolument mettre à mal? Je vais commencer là-dessus pour les coups.
Non, mais je sais pas, tu voulais parler de la manif tout à l'heure.
Oui, la manif.
Alors,
oui,
du coup, en fait, oui, ce qui est étonnant, c'est que c'est une loi qui a été faite juste sur la forme, sans aucune concertation. Je crois que même la CFDT a été exclue de la rédaction de la loi, donc il y avait quand même très peu de chances que le texte, enfin sans préparation et sans au moins accord de la CFDT, il y avait quand même très peu de chances que le texte aboutisse en l'état, enfin soit accepté en l'état par l'opinion. Et puis les gens qui avaient préparé tout le travail de préparation, hein, donc les notamment Badinter, Maître Lyon-Camp, donc tous ces gens qui avaient fait le travail de préparation de la loi, je crois, enfin sans trop m'avancer, que si aujourd'hui on leur présentait le projet de loi, ils s'y reconnaîtraient pas, et finalement leurs préconisations ont été remises en préambule de la loi, et puis devraient être réintégrées d'ici 2 ans en fait. Et donc du coup, on a l'impression une fois de plus qu'on a un gouvernement qui à chaque fois tente de passer en force. Et là c'est encore plus le cas qu'ailleurs, donc ils préparent tout là-haut, hein, puisque grosso modo la loi a été rédigée probablement par Valls et par Macron. Absolument. Et à la fin, ben effectivement ils sont obligés de lâcher du lest parce que c'est quand même historique d'avoir un mouvement étudiant, donc ou un syndicat étudiant, donc l'UNEF, qui est plutôt socialiste.
Absolument.
Et qui finalement manifeste contre un gouvernement socialiste en fait. Hein. Et donc effectivement, ça rappelle étrangement le CPE. Et surtout, il y a la présidentielle dans un an et demi. Donc le gouvernement va de reculade en reculade. Donc c'est presque suicidaire quoi comme façon de faire. Donc on a vraiment un gouvernement, enfin. Très étrange, en tout cas très à droite.
Tout à fait. Alors il faut quand même rappeler que il faut rappeler quand même que l'UNEF il y a deux mouvances dans l'UNEF. Hein. Il y a l'UNEF ID donc effectivement qui est proche du socialisme, hein, donc du socialisme tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le PS aujourd'hui au gouvernement. Et il y a l'UNEF SE qui est la partie communiste de l'UNEF, donc un peu LCPC, hein, on va dire ça pour être plus clair. Alors je ne sais pas quelle est la proportion de l'UNEF ID dans les manifs et la proportion de l'UNEF SE, mais effectivement, si les deux UNEF sont dans la rue, c'est effectivement une petite victoire quand même, quelque part.
Oui, mais alors t'es dans une analyse de rapport de force politique, mais il faut pas oublier que tu parles sur la notion de jeunesse, mais en fait ça concerne tous les salariés. C'est-à-dire que moi, j'ai été là récemment sur le blog de Gérard Filoche. Alors, Gérard Filoche, on ne le présente plus. C'est un ancien inspecteur du travail. On peut dire qu'il est à la gauche du PS, enfin, parmi les frondeurs. Et lui, en tant que technicien du Code du Travail, et donc une personne qui l'a vécu concrètement sur le terrain, mais aussi dans aussi bien les petites, les moyennes que les grandes entreprises, il a détaillé ce projet. Et là, si tu veux, il y a des problématiques de fond. C'est-à-dire que là, je vais être concret. D'abord, l'article 1, reprise à la virgule près, c'est tout simplement les 61 principes du MEDEF, du programme du MEDEF, au moment de leur assise en 2000 de la refondation, ce qu'ils appelaient la refondation sociale. C'est-à-dire que quand des jeunes écrivent un slogan « Sarko en rêvait, le PS l'a fait, le MEDEF le voulait », c'est totalement ça. Donc, c'est-à-dire que, d'un seul coup, on s'assoit sur un code de travail qui est lié à des luttes de 1906-1910. C'est-à-dire qu'on transforme la durée légale du travail en durée normale. Donc, il n'y a plus 35 heures. Il n'y a plus de 40 heures. Ça n'existe plus.
C'est 60 maintenant, c'est ça?
Non, c'est ad vitam aeternam.
Ad vitam aeternam, d'accord.
C'est ça que ça sous-entend. Soit, comme il le dit dans le premier article, la fin de la durée légale du travail. Ça, c'est déjà la première chose.
Oui, en fait, si je peux rebondir là-dessus, c'est que ce qu'il y a en fait derrière ce petit jeu sémantique, c'est que les accords au départ dans le premier projet de loi, les accords au niveau de l'entreprise pouvaient excéder. Alors, c'était assez subtil, c'était en principe, c'était les accords sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc en principe, hein, on est au 35, à partir de 35,
Après 35 heures, la 36e heure a été payée en heure supplémentaire.
Grosso modo, mais il faut compter aussi les gens qui étaient en RTT, donc voilà. Ça a plutôt, donc en décomptant, c'était plutôt 38 heures, on va dire, en moyenne. Et d'accord. Donc, c'est subtil, c'est qu'en fait, l'accord entre entreprises passe au-dessus de la loi. Voilà, ouais. Ça c'est le grand truc, c'est-à-dire que donc, tu mets fin à une espèce de durée normale, légale, comme il le dit, du travail, pour une durée normale qui est fluctuante, en fonction de voilà,
en fonction des besoins,
voilà, en fonction des besoins, etc.
La compétitivité d'entreprise.
Tu es en train de dire que la loi, Charles l'avocat du diable, tu es en train de dire que la loi d'entreprise va au-dessus des accords de branche.
C'est ça.
Et au-dessus des conventions collectives.
C'était dans le premier projet de loi, c'était ce qui était voulu.
Alors derrière, il y a une chose qui est beaucoup plus grave que ça, c'est-à-dire c'est le fait que dans le champ de la négociation collective. C'est justement dans le cadre des accords d'entreprise, c'est là où sera décidé les droits réels du salarié. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la disposition légale de la loi, ce que dit la loi, mais dans la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que c'est super important. Ça veut dire que la loi ne prévoit plus la possibilité par accord collectif de rémunérer les temps de pause et de restauration, même s'ils n'étaient pas considérés comme temps de travail effectif, par exemple. Et aussi les temps d'habillage ou de déshabillage. Alors ça a l'air de rien, mais il faut savoir qu'à Air France, ils l'appliquent pour les stewards, les hôtesses, lorsqu'elles mettent leur tenue. Compter dans le temps de travail.
Christophe, juste pour que ce soit clair, ne serait-ce que pour moi et pour les auditeurs, C'est-à-dire que le temps que tu mets pour te déshabiller, te réhabiller par exemple un uniforme,
pour l'équipe de McDo,
c'est pas compté comme heure de travail.
Absolument.
D'accord, on est d'accord.
Alors il y a une autre disposition, c'est que si tu veux, c'est sur la suppression actuelle de l'obligation lorsqu'on est astreinte de demeurer proche de son domicile ou à proximité. Ça a l'air de rien, mais si t'es une femme et t'as des enfants en bas âge, si on te dit t'es d'astreinte, eh ben tu peux pas invoquer la distance de trajet pour rentrer, pour te défendre. T'es obligé de l'accepter. Ça change tout. Il faut savoir aussi que, et ça c'est encore plus grave, c'est là où Gérard Filoche réagissait à force d'invective, c'est que la durée de repos légal du travail, c'est 11 heures. Sauf que maintenant, avec la nouvelle loi, on peut le fractionner. Donc on peut te dire tu vas dormir 4 heures, et entre temps, tu reviendras.
Alors, ils sont revenus dessus quand même, c'était effectivement dans la première mouture. L'idée, c'était effectivement plus 11 heures consécutives,
mais fractionné en plusieurs fois.
Et je crois que c'était plutôt pour les cadres, me semble-t-il.
Alors, il faut savoir qu'il y avait aussi un article de loi qui est inchangé, qui dit très clairement que les dérogations à la durée maximale de 10 heures sont possibles par accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait un vote, sachant que cette loi, elle dit, par exemple, tu as 3 syndicats, ils ont 70% des sièges. 2 syndicats. T'en as un troisième, il a 30%. Et bien, si le troisième syndicat qui a que 30 sièges sur 100 dans l'entreprise, il dit « je suis d'accord pour cette loi, même s'il n'est pas majoritaire », tout le monde est obligé de l'appliquer. C'est-à-dire que la notion de majorité, de vote majoritaire n'existe plus. Il faut juste l'accord d'un syndicat minoritaire.
Oui, mais qui soit représentatif de 30%.
Voilà.
Et alors, dans ce cas-là, es-tu contre le référendum des salariés? Parce qu'effectivement,
le référendum, ça va pas tuer le travail syndical, ça, pour le coup?
Ben, tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est de contourner les syndicats majoritaires en pratiquant un vote, donc effectivement par référendum, pour des accords d'entreprise. Donc typiquement, actuellement, il y en a un exemple pour la durée, le temps de travail. Hein. Donc, qui dans certaines entreprises devait être, on a proposé de le ramener à 39 heures contre pas de suppression de poste jusqu'en 2020. Et alors, jusqu'à maintenant, les syndicats pouvaient s'y opposer s'ils étaient majoritaires, si tous les syndicats étaient réunis, c'est-à-dire qu'ils passaient la barre des 50%. Dans le prochain projet de loi, il est question de le faire sauter.
D'accord. Oui, Christophe.
Alors, il faut savoir que dans la notion de durée maximale du travail aussi, avant, au nom de l'ordre public, si tu veux, les employeurs pouvaient demander pendant jusqu'à 12 semaines de porter la durée maximale du travail à 44 heures. Ça passe à 16 semaines.
Alors, ils sont revenus en arrière là-dessus.
Voilà.
Mais effectivement, derrière ça, enfin, il y a tout un débat, si tu veux, sur la flexibilité. Ça ressemble à une loi Macron, quoi. Mmh. C'est-à-dire sur la flexibilité, et donc qui dit flexibilité, le dépassement ponctuel des temps de travail. Donc parce que là, c'est dit comme ça, ça a l'air de rien, mais pour donner un exemple, on peut être au forfait et ne pas être cadre. C'est possible. Et donc, au forfait, ça veut dire qu'en fait, on a annualisé le temps de travail. Et donc, typiquement, effectivement, sur une période, si on suit le premier projet de loi, sur une période de 16 semaines consécutives, vous pouvez travailler, effectivement, 44 heures.
Voilà. Voire plus.
44 heures.
Sachant que il y avait une autre disposition.
Plus, mais, voilà, alors, la limite est à 48 heures.
Non, ouais, mais il y a encore une disposition qui est terrible. C'est que, par exemple, on va te dire, pendant 16 semaines, tu vas travailler 44 heures payées 35. Mais en plus, tes horaires sont individualisés. Il y aura pas forcément la récupération des heures perdues.
D'accord.
Si t'imagines. C'est-à-dire que t'es une mère de famille ou un père de famille avec un enfant en bas âge ou même un jeune enfant, tu te dis, demain, vous faites pas 6 heures, vous en faites 10. C'est comme ça. Et ça peut être si tu refuses, ça peut être un motif réel et sérieux de te licencier.
D'accord. Sauf si. Oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait eu un accord dans l'entreprise.
Oui. Faut que... Minoritaire.
Minoritaire, d'accord.
Et ces dérogations, pour cause de compétitivité, par exemple. Au lieu d'avoir une autorisation administrative du contrôleur du travail, de l'inspection du travail, tu as le droit désormais au syndicat de seulement les informer. Ça change énormément de choses.
Oui, alors, les points de litige, en fait, sur cette loi, bon, ils sont nombreux, hein, mais il y en avait un, donc notamment sur le plafonnement des indemnités devant les prud'hommes. Oui. Alors, pourquoi le plafonnement? C'est que jusqu'à maintenant, pour prendre un exemple concret, si vous voulez, un salarié qui était effectivement en CDI depuis 10, 15 ans, mettons, tirons, voilà, voire 20 ans dans certaines entreprises. Si vous voulez, quand il était licencié, abusivement, c'est-à-dire contre toute raison économique, voilà, réelle, le juge, et une fois que les juges prud'homaux avaient jugé l'affaire, pour l'indemnité n'était effectivement pas plafonnée dans la mesure où il prenait en compte l'âge de la personne, par exemple, et sa capacité à retrouver un emploi. Parce qu'effectivement, typiquement, le cas...
À 58 ans, c'est quand même pas pareil qu'à 25.
Exactement, quoi. C'est-à-dire que quand vous débarrassez des salariés les plus âgés... pour baisser voilà vos salaires, c'est voilà, et d'ailleurs le l'accord de licenciement entre guillemets à l'amiable, hein, c'est ça, voilà, avait été fait justement dans cet esprit-là, hein, c'est-à-dire que pour régler les différends. Et donc là, effectivement, le problème de plafonner, c'est-à-dire alors a priori, hein, au même titre que celui qui a 3-4 ans d'ancienneté et celui qui en a 55, ça posait quand même un léger problème, hein. Et donc, alors ça, au moins la mobilisation de la rue a bien marché, puisque de ce point de vue-là, hein, ils sont revenus dessus, mais ils proposeront quand même un barème indicatif aux juges prud'homaux qui pourront s'y référer, mais sans être obligés de l'appliquer. Mmh. Donc ils garderont leur latitude et leur marge de manœuvre. Voilà. Cela dit, sachant que, je veux dire, quand les juges prud'homaux arrivent à se mettre d'accord, hein, alors pas tout le temps, des fois, mais quand ils se mettent d'accord, il y a aussi des juges patronaux, des syndicats patronaux qui sont là. Hein. Et donc, quand ils prennent des décisions d'indemnité, quand ils versent des indemnités, il y a un consensus pour dire qu'il faut verser quand même tant pour tel salarié, puisque...
Mais moi, j'ai un doute sur cette possibilité d'accord collectif dans l'entreprise, parce qu'en fait, le patron, il est quand même maître chez lui, et le salarié, c'est...
Mais surtout, plus tu descends au niveau local, et plus tu as une pression forte, sur les gens. Donc, et évidemment, par les temps qui courent, c'est un risque de chantage à l'emploi, comme on l'a vu récemment. C'est-à-dire que... c'était un chiffre que rapportait le Monde diplomatique, qui était très intéressant. Oui. C'était en 2000, je crois que c'est en 2014. Je vais pas dire de bêtises. En fait, il y a.
Faut rappeler quand même que c'est un article de Sophie Béroux, hein. Ça s'appelle Imposteur de la démocratie en entreprise. Dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, je crois. Hein,
voilà. Et alors, il disait, exactement, celui d'avril, hein, donc on est le 1er avril, c'est donc...
c'est pas une farce,
un poisson d'avril. Et du coup, de mémoire, hein, le nombre d'accords qui a été signé en 2014 s'élève à peu près à 30 000,
c'est ça,
je
oui.
crois. Et du coup, il y a juste un souci, c'est qu'effectivement, quand il s'agit d'arriver à des accords... sur les augmentations de salaire, là, très peu d'accords sont conclus.
36 500 exactement.
36 500, merci. Voilà, sur 2014. Donc, et donc là, il y a un vrai blocage au moment de la négociation. C'est-à-dire que, en réalité, on peut discuter de plein de choses, de sécurité dans l'entreprise, d'aménagement du temps de travail, tout ce qu'on veut. Mais au moment où on parle de, j'allais dire presque de l'essentiel, il y a toujours un blocage. Comme quoi, la démocratie dans l'entreprise n'est pas un miracle. Enfin, en l'état, hein, la discussion. Et alors, ce que disait l'article, c'est qu'effectivement, les seuls cas... Alors... où effectivement il y avait eu le seul cas qui est connu où il y a eu effectivement un référendum, donc un accord proposer un accord, et ben c'était effectivement travailler 39 heures contre 35 sans licenciement. Donc effectivement, oui, on voit bien que la pression sur les salariés
existe et puis elle est bien là. Ouais.
Alors pour résumer, il y a l'excellent blog forme d'organisation sur change.org. Loi Travail, non merci, avec des militantes comme Catherine Haas qui ont donc lancé cette pétition. Et pour vous renseigner...
1 200 000 signatures, je crois.
Oui,
hein,
un peu plus.
Un peu plus, ouais.
Pour vous aussi, donc ils suivent le mouvement social de contestation de la loi M. Khomri. Et voilà, ils ont mis des petites vignettes, si tu veux, graphiques sur ce qui change et ce qui ne change pas. Et donc, ce qui ne change pas, c'est toujours ce qui pose un énorme problème. À savoir qu'une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques. Donc le licenciement financier pour dégager des marges de bénéfices.
Bah, je crois justement pas. Je crois qu'il fallait qu'il sur 4 trimestres, il soit
non,
en...
Non, non, non. Non, une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques.
Ah bon, d'accord. Au niveau international. Là où ils ont reculé, c'est qu'auparavant, donc le projet de loi, effectivement, autorisait une filiale à avoir des problèmes financiers. Et donc, dans ce cas, à licencier en cas de problème financier, mais sans mettre en cause la maison mère. Donc là, ils ont étendu le périmètre simplement aux sociétés en France. C'est-à-dire que, grosso modo, une filiale,
donc en gros,
une multinationale...
Coca-Cola, on va prendre un exemple pour les auditeurs qui connaissent certainement aussi bien le sujet que nous, hein, finalement, parce qu'ils sont tous bien motivés donc, contre cette loi. Donc ils l'ont automatiquement regardé. Mais donc on va prendre un exemple. Coca-Cola international fait des bénéfices, mais par contre perd un peu d'argent en France.
Ils peuvent virer du monde.
C'est ça. D'accord.
Donc je vais juste.
S'ils sont déficitaires sur toute la France.
Donc
je vais juste rappeler quelques petites notions qui n'ont toujours pas changé et qui posent un problème de fond. Donc une mesure peut être imposée par référendum, contre l'avis de 70% des syndicats. Donc la démocratie n'existe plus, non, l'entreprise. Enfin, ce qui est un soupçon.
Mais si, par référendum, elle existe. Voilà. Mais sauf qu'en fait, l'espace démocratique politique entre guillemets n'est pas l'espace démocratique en entreprise. Il y a un biais quand même. Sachant que par exemple, tu fais un référendum à Aulnay-sous-Bois, par exemple, dans l'usine, c'est Renault, PSA. Et puis le référendum, il concerne pas les intérimaires qui représentent. De 20 à 30 à 40.
Alors, je vais rappeler ce qui ne change pas et la raison de l'inquiétude de la jeunesse et pourquoi, à mon avis, ce mouvement va durer, c'est que d'abord, la durée de congé en cas de maladie ou de handicap d'un proche n'est plus garantie par la loi. Bon, c'est monstrueux. Hein.
Avant, il y avait 3 jours, je crois, non? Une semaine, je ne sais plus.
Ouais. Je poursuis, hein. Changement de mission des médecins du travail. Ça, c'est quand même absolument hallucinant.
On va en parler après si tu as des informations là-dessus sur le médecin du travail, c'est intéressant aussi.
La durée du congé pour catastrophe naturelle n'est plus garantie par la loi, absolument hallucinante. Imagine une entreprise, une grande entreprise sous normes ISO, Céveso, qui risque chimique ou autre, hein. Ta maison brûle ou inondation, tu peux être viré du jour au lendemain. Fallait pas être là. La durée et les modalités du congé sabbatique ne sont plus garanties par la loi. Donc, si tu veux avoir un truc pour convenance personnelle, pour monter, c'est un peu contradictoire. Tu vois, on nous parle de liberté d'entreprise. Mais par exemple, tu vas aller créer une boîte parce que être créateur d'entreprise ou monter une boîte, c'est dans la loi et dans le code du travail, c'est un motif pour faire un congé sabbatique ou sans solde ou une mise à disposition quand t'as statut fonctionnaire.
C'est garanti
par la loi.
Oui, bien sûr.
Et là, alors qu'on nous dit de créer des entreprises, de l'activité, on nous dit la durée et les modalités du congé sabbatique ne sont plus garanties par la loi. C'est hallucinant.
Ça mais garanti par l'entreprise, certainement.
Ouais. Enfin, le contrat de professionnalisation ne sera plus forcément qualifiant. Alors là, on nous parle de l'apprentissage.
Tu peux répéter ce que tu viens de dire là, excuse-moi, j'ai pas compris.
Le contrat de professionnalisation, donc apprendre.
N'est plus qualifiant.
Ne sera plus forcément qualifiant. Absolument hallucinant. Sachant qu'on nous a répété pendant des années que l'apprentissage et l'apprentissage d'un métier était la clé pour s'intégrer dans l'entreprise. Les négociations annuelles sur les salaires pourront être organisées tous les 3 ans. Circuler, il n'y a rien à voir.
Pardon ?
Les négociations annuelles sur les salaires pourront être organisées tous les 3 ans.
Donc ça veut dire que pendant 3 ans, elles seront gelées, quoi.
Voilà.
En même temps, moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont augmenté leur salaire ces derniers temps.
Moi, je connais des gens. J'ai contacté une personne il n'y a pas longtemps, là, qui vend et qui achète des voitures de course.
Et ça marche très bien.
Il s'est fait 15 000 euros par mois sur 12 mois.
Et les salaires augmentent.
Et lui me dit, alors, je dis, mais ça va.
De l'industrie du luxe.
Vous êtes bien alors finalement. Il me fait, oui, mais moi j'ai travaillé. C'est-à-dire que les autres. Alors, sachez, messieurs, dames, que si vous êtes à la chaîne chez Renault, vous ne travaillez pas. Hein, sachez-le.
Alors, là, une chose qui a. Je vais reprendre sur ce qui ne change pas et qui pose des problèmes de fond, mais aussi pour l'économie. Je ne t'apprends rien. Dans le monde de la finance où il y a eu des fusions et acquisitions, ça a été un motif pour faire des transferts de compétences, des transferts de savoir-faire et de savoir-faire technologique. C'est vieux comme le monde, hein. C'est un des effets les plus notables d'une politique capitaliste et libérale dans un espace mondialisé. Mais là, la loi facilite le licenciement en cas de transfert d'entreprise. Tu sais que tu as des cadres sup qui ont été engagés aussi bien dans le privé...
Ça, c'était déjà le cas.
Ah non. qui créent des boîtes et des concertums pour virer les gens et garder les technologies.
Moi, j'ai connu des entreprises qui délocalisaient et qui disaient si vous ne nous suivez pas, vous êtes licencié. Hein. Donc, on était obligé d'aller chercher ailleurs.
Donc, temps partiel, des
imagine, oui, mais, non, mais tu pouvais avoir recours au prud'homme quand même.
Ah oui, t'avais un recours au prud'homme.
Là, c'est autorisé.
Donc, c'est autorisé.
Voilà. Donc, temps partiel, des heures complémentaires moins payées, on en a déjà parlé. Des horaires pouvant être modifiés 3 jours à l'avance pour les temps partiels. Bonjour à la flexibilité. Congé payé, des changements de date au dernier moment rendu possible. Ah, mais j'emmène mes enfants au ski ou mes enfants vont voir papy et mamie à la mer.
Date de vacances changée sur ordre de l'entreprise.
Les accords d'entreprise auront maintenant une durée de 5 ans maximum. Donc on est bien dans une logique de subordination et de destruction du droit dans le cadre du travail.
Enfin, c'est tout le droit social qui est remis en cause en gros. Là.
Totalement. Trop perçu, Pôle emploi peut prélever directement sur les allocations chômage.
D'accord.
Voilà. C'est intéressant, hein.
C'est dans le projet de loi sur le travail, ça.
Ah, absolument. C'est dingue. Les temps d'astreinte peuvent être décomptés des temps de repos.
Ah, c'est fort, ça.
Ah, ça oui, tu es, par exemple, gardien d'un bâtiment privé et tout, je suis temps d'astreinte, et ça décompte de temps de repos, tu dors quand?
Ouais.
Licenciement économique déclaré nul, baisse des indemnités pour les salariés, ça on en a déjà parlé. Moins d'indemnités pour les malades et accidentés licenciés. La visite médicale d'embauche transformée en une visite d'information. Par simple accord, on peut passer de 44 heures à 46 heures de travail maximum. Une entreprise peut par accord baisser les salaires et changer de temps de travail. Ça te va ?
Bon, tu nous feras la suite de la liste parce qu'on va écouter une petite chanson avant.
Voilà, et ensuite, j'ai terminé.
Non, mais
on a bien décrit la situation.
Comme une blessure.
Et oui, quand les femmes chantent la révolte, ça détonne et ça cartonne, on dit. Hein. Magnifique. Donc, on reprend cette émission. C'est l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires avec l'émission d'ACAG Ensemble contre le chômage 19-20. On reprend cette émission, c'est sur le décryptage de la loi El Khomri, de ce qu'il en reste et de ce qui a été un peu une attaque en rang serré contre les salariés et contre évidemment les plus pauvres d'entre nous, hein, pour le dire. Donc on reprend ça pour décrypter un peu cette loi et dire d'où éventuellement ce qu'il en reste un petit peu, qu'est-ce qui a été retiré.
Oui, alors pourquoi justement il faut continuer à manifester contre la loi? Pourquoi? Parce qu'après tout, le gouvernement a reculé, paraît-il. Donc pour prendre un exemple de ce qu'était cette loi avant que le gouvernement recule, hein, de son aspect symbolique. Par exemple, le gouvernement voulait augmenter le temps de travail des apprentis mineurs à 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le salaire des apprentis, c'est même pas le SMIG.
Non, c'est...
Sous prétexte de formation, bon, ils sont mieux payés que les stagiaires, certes, mais enfin, et ils sont jeunes en plus, hein, je veux dire, c'est des gens qu'on met au travail, et là, il s'agit en plus des mineurs. C'est-à-dire que des gens qui
de 16
à 18 ans.
C'est ça, ouais.
Et ces gens-là, visiblement, n'étaient pas assez productifs. Bon, voilà. Et donc, effectivement, on allait les faire bosser 10 heures par jour. On pouvait les faire bosser 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Voilà. Donc ça, heureusement, le gouvernement a reculé. Et il a renoncé aussi au fractionnement du repos quotidien en cas de forfait jour. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'était pour les cadres. Parce qu'en fait, on peut être aussi employé au forfait jour. Donc le forfait jour, c'est la peine pour le. En termes de flexibilité, c'est vraiment très compliqué là pour le coup. Et donc il dit qu'il ne va pas toucher aux durées quotidiennes et hebdomadaires du travail. Voilà. Le système d'astreinte. Il pourrait toutefois jouer sur les mots et toucher par exemple aux moyennes de durée de travail sur plusieurs semaines. Donc. Mais surtout, il ne refuse pas le grand changement en matière de temps de travail introduit par l'avant-projet de loi, à savoir la liberté pour un accord d'entreprise de fixer le niveau de majoration des heures supplémentaires avec un plancher de 10%. Donc c'était ça, hein, c'est-à-dire désormais, au niveau de l'entreprise, c'est l'entreprise qui fixera la rémunération des heures supplémentaires. Donc en l'occurrence, jusqu'à maintenant, c'est 25%, oui. Ça c'était la loi. Donc je rappelle que tout accord de branche ou tout accord d'entreprise, tout accord de branche devait être plus favorable aux salariés que la loi et tout accord d'entreprise devait être plus favorable que l'accord de branche.
Ouais,
et
ben
maintenant ça sera le contraire si je peux m'exprimer ainsi. Et donc voilà, le plancher minimum est à 10%. Voilà, sans tenir compte de la corde branche, et donc effectivement le verrou. Alors, là, je précise quand je tire en partie mes informations de l'humanité, du spécial humanité, loi travail. Donc le verrou écrit l'humanité, le verrou de la corde branche saute effectivement bel et bien. Donc ça, c'est juste pour les heures supplémentaires. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les heures supplémentaires, d'une certaine façon, régule aussi, enfin fait partie de la flexibilité, de la fameuse flexibilité qu'on va imposer aux salariés. Donc, la flexibilité, ça veut dire quoi? Dans le cas extrême, c'est, par exemple, les accords compétitivité emploi qui avaient été imaginés par Nicolas Sarkozy et qui étaient devenus l'accord du maintien de l'emploi, le fameux ANI en 2013, l'accord sur l'ANI. Donc, dans la loi inspirée par l'ENI, donc serait consacré, serait étendu sur le projet, avec le projet de loi travail. N'importe quel accord d'entreprise prétendant préserver ou développer l'emploi s'imposerait au contrat de travail. D'accord? Donc, ouais. C'est-à-dire que demain, effectivement, tu reviens, tu passes de 35 à 39, simplement, bah oui, pour sauvegarder l'emploi, c'est évident. Et donc, il pourrait modifier la durée du travail à la hausse et le salaire horaire à la baisse, même si la rémunération mensuelle serait garantie, mais c'est un décret qui définirait les contours de cette garantie. Les salariés qui refuseraient l'application de l'accord seraient licenciés sans pouvoir contester le motif et ne bénéficieraient pas d'un plan de sauvegarde de l'emploi, même s'ils sont plus de 9 dans la charrette. Donc, je sais pas si vous voyez bien quand même l'état d'esprit.
Est-ce que ça veut dire par là que toutes ces considérations seront inscrites dans le contrat de travail à l'embauche?
Alors non, puisque c'est des accords en cours de route.
Ah, ça,
c'est
oui,
ça
pardon,
le problème.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, mais tu as raison de dire la chose, c'est-à-dire que désormais, un contrat de travail sera différent d'une entreprise à une autre. Ah, c'est oui. Ça que ça veut
et
dire.
Un salarié à un autre dans la même entreprise.
Non, c'est un accord d'entreprise. Non, bien sûr que non. Mais d'une entreprise à un autre, d'un secteur à un autre. Bon, d'un secteur à un autre, c'est plus, disons que la convention collective est différente d'un truc, mais enfin, t'as un seuil minimal qui est le droit du travail. Et ben là, tu auras, par dérogation, qui existait déjà pour le temps de travail, dans certains cas, d'un secteur à l'autre, c'est-à-dire que tu seras obligé de te renseigner sur l'entreprise avec qui tu vas signer ton prochain contrat, tu vois. Donc ça, c'était bon. Ça, c'est le cas extrême, Mais la flexibilité, c'est aussi, par exemple, une modulation du temps de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, par accord d'entreprise toujours, ou de branche, elle est possible, aujourd'hui sur une année. Donc, pour les salariés qui sont aux 35 heures, mais non pas par semaine, mais en moyenne sur l'année. Donc ça, c'est typiquement le cas des forfaits jours. Le texte prévoit d'élargir cette possibilité jusqu'à 3 années, ce qui reporte l'éventuel paiement d'heures supplémentaires à la fin de cette période.
D'accord, d'une année sur l'autre, on la reporte, etc., etc. D'accord.
Voilà, 3 ans. Donc, la fin de cette période de référence, donc, est constitué un facteur de factoring important avec les variations de durée du travail. La nouvelle mouture encadre un peu cette possibilité en rendant nécessaire un accord de branche, tout de même, pour étendre la modulation au-delà de l'année, mais quand même, mais laisse inchangée la possibilité pour l'employeur de décider unilatéralement une modulation du temps de travail sur 4 mois, contrairement à aujourd'hui. Donc, grosso modo, c'est ça que ça veut dire, Demain, on va dire, il y a un grand coup de bourre, tu travailles 44 heures pendant 4 mois, oui. On va dire. Et puis, finalement, alors, on a quand même moins de boulot, moins de commandes, machin. Donc, tu vas faire beaucoup moins, on va dire, dans les 2 mois qui suivent. Mais à la fin, effectivement, les heures supplémentaires ne seront pas payées si l'employeur s'est bien débrouillé, en quelque sorte.
D'accord.
C'est ça.
D'accord.
Et donc, c'est en termes de flexibilité, dans certains secteurs, il y a une vraie nocivité pour ceux qui sont à la chaîne, pour toutes les métiers.
Et ça, c'est resté, ça, pour l'instant, dans le...
Ça, oui, c'est resté. D'accord. Ça, c'est resté. Voilà. Et alors, c'est toujours cet esprit. Bon, par exemple, les accords. Ça, c'est important, quoi, les accords entreprises, tu vois.
Ouais.
Les accords avec les salariés mandatés seraient élargis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans les entreprises qui n'ont pas de représentants, de délégués du personnel, la possibilité, maintenant, existerait la possibilité de mettre en place un système de forfait jour pour favoriser la flexibilité, qui permet de mesurer la durée de travail à la journée et non à l'heure, sans passer par un accord dans l'entreprise de moins de 30 salariés. Ça serait supprimé dans la nouvelle mouture. Mais le gouvernement annonce sans précision un élargissement des possibilités de signer un accord avec un salarié mandaté lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise. Alors, il faudra surveiller les modalités de cet élargissement, car le mandatement est souvent le moyen pour l'employeur de signer un accord avec un salarié qu'il a lui-même choisi.
Oui, c'est ça.
Et cet élargissement concernerait tout type d'accord, pas seulement ceux instaurant les forfaits en jour. Donc ça, c'est pour les petites entreprises, c'est un peu chaud. Hein.
Ah, c'est carrément, voilà. Carrément chaud. Oui.
Voilà, voilà. Et enfin, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le référendum. Donc le référendum, en fait, contre les syndicats, puisque dans sa nouvelle mouture, il choisit de cantonner aux accords portant sur le temps de travail l'introduction du référendum, donc juste sur le temps de travail, pour neutraliser l'opposition des syndicats majoritaires, en attendant une généralisation du système. Aujourd'hui, un accord est valable s'il est signé par les syndicats représentant au moins 30% des salariés, mais les syndicats recueillant plus de 50% des voix peuvent faire jouer leur droit d'opposition contre l'accord. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que quand les syndicats font front uni, ils peuvent effectivement rejeter un accord de moins de 30% de salariés ou un référendum. Avec ce nouveau système, des syndicats à plus de 30% des voix pourront organiser un référendum pour rendre l'accord valable malgré l'opposition de syndicats majoritaires sous prétexte de démocratie. Donc on casse le rempart que peut constituer les syndicats face au chantage à l'emploi utilisé par les employeurs pour obtenir des reculs sociaux. Donc 30% des syndicats qui représentent 30% du personnel peuvent provoquer effectivement un référendum pour passer outre l'opposition de leurs collègues syndiqués majoritaires.
Donc là, on est dans le nombre de risques psychosociaux, les maladies professionnelles vont augmenter de façon exponentielle, en fait, j'imagine.
Mais dans certains secteurs d'activité, c'est un risque réel.
C'est clair.
Oui, et puis on parle souvent de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises, mais enfin, c'est là, si vous voulez, que la pression... Que la proximité avec le patron est la plus, j'allais dire la plus proche, mais la plus importante, et que la pression est la plus forte, en fait, sur les. Et donc là, parce qu'on imagine que là, on a besoin de légaliser tout ça pour éviter les recours, mais je suis sûr que il y a des salariés qui font des heures supplémentaires qui sont pas payées.
Bien sûr.
Ça, j'en suis.
Certainement.
Voilà. Et qui se plient aux désiderata du patron, du fait de la proximité du patron et du fait aussi du chantage à l'emploi. C'est déjà le cas, à mon avis.
Christophe, tu veux intervenir là-dessus ou...
Ben oui, alors à moins que on fasse une petite coupure pour. Parce que je voulais parler d'où vient cette loi et son origine historique. Qu'est-ce que ça sous-entend derrière?
On fait une petite coupure, ça marche.
Au printemps, de quoi rêvais-tu ? D'un printemps ininterrompu.
Rebonsoir, c'était bien sûr le très grand Jean Ferrat, une chanson militante comme d'habitude, contre le petit MEDEF, hein, évidemment, pour le coup. Donc vous êtes sur le Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires avec Ludo et Christophe, et Gilles au micro également.
Bonsoir.
Et bien sûr Claude à la technique, merci Claude pour cette chanson. On va reprendre cette émission bien sûr sur pourquoi cette loi a été mise en application, enfin en tout cas votée et réalisée par le gouvernement. Sans doute pour répondre au MEDEF qui avait fait des propositions, j'imagine. Mais pourquoi ces propositions justement? Alors Christophe.
Alors là, il y a tout un contexte historique qui est assez étonnant à rappeler. Je crois que c'est Libération qui a fait hier ou avant-hier un article sur le thème de « Où Marianne, le suicide politique de Hollande sur la mise en œuvre », c'était le titre de l'article, sur la mise en œuvre de la loi El Khomri. Alors déjà, première remarque, la loi El Khomri, c'est pas la loi El Khomri, c'est la loi Macron 2.
Absolument.
C'est-à-dire que celui qui a écrit, qui est en train de foutre le bordel social... C'est monsieur l'ultralibéral Macron. Ça, et son ami Valls. Ça, déjà, parce que madame a une connerie, on en parle, mais elle ne fait qu'exécuter.
C'est infusible, en fait. Hein.
C'est infusible.
Non, mais je veux dire, juste un truc qui est important, c'est que le ministère du Travail, il y a quand même des juristes, des gens qui sont des spécialistes du droit du travail.
Bien sûr.
Et t'as comme l'impression que tout d'un coup, hop, ils sont dessaisis de quelque chose qui est leur compétence au profit d'un truc plus haut, de quelqu'un qui est certes très brillant, mais enfin, dans le droit du travail, et pas forcément la spécialité. Et puis de la même manière, t'as quand même des oui, en plus voilà qu'il y a un ancien financier. Et puis t'as des intellectuels qui pondent quand même un rapport. Mais bon, le rapport, il est quand même la loi, elle a plus grand chose à voir avec ce qui a été promulgué avant, quoi. C'est pour dire que quand même, on a une méthode d'un hyper-dirigisme en fait, hein, quelque part. Bien.
Alors là-dessus, il y a un excellent article de Jacques Nikonoff, qui est l'ancien président d'Attac, je crois. Hein,
oui.
Hein, qui dont est un professeur associé à l'Institut européen à Paris 8 et qui le 30 mars a mis en œuvre tout un article en rappelant un certain nombre de données. En fait, tu sais qui c'est qui commande la loi El Khomri? Ben c'est absolument pas démocratique. C'est les libéraux de Bruxelles. C'est la Commission européenne qui, en accord avec les lobbies du patronat européen et de MEDEF, a mis en œuvre cette loi. Et pourquoi ils veulent la faire pour la France en particulier? Parce que pour des raisons démographiques, structurellement, comme l'a indiqué la DARES et les études de l'INSEE, le chômage à partir de 2018-2019 va baisser mécaniquement. Donc il est nécessaire que le principe de loi qui est garanti par la Constitution se substitue de fait au principe de contrat individuel dans le cadre du monde de l'entreprise. On retourne au 19e siècle, c'est-à-dire que c'est en fait une forme de coup d'État juridique des organisations syndicales. Et alors... quand ça a été mis en œuvre, il faut savoir que la Commission européenne, il y a un lobby qui s'appelle le semestre européen, qui représente un certain nombre d'organisations patronales au niveau de l'Europe, mais aussi du MEDEF, hein, qui publie pour la Commission européenne, donc tous les 6 mois, c'est pour ça qu'il s'appelle le semestre européen, des convergences, des coordinations, des notes de coordination des politiques économiques et budgétaires au sein de l'espace européen. Et donc c'est eux qui, au départ, en 2000, au nom de la fameuse refonte du dialogue social promulguée par le MEDEF, ont mis en œuvre cette logique et cette loi néolibérale. Donc, si vous voulez, c'est pas sorti du chapeau. C'est pas sorti du chapeau, c'est une stratégie. Et donc, l'effort, c'est quoi? C'est que sous prétexte de croissance et d'harmonisation des législations entre les pays européens, parce que un ouvrier polonais, hein, c'est la fameuse directive Bolkestein, n'a pas les mêmes droits, les mêmes obligations et les mêmes avantages fiscaux et cotisations et taux de rémunération qu'un ouvrier du droit français.
Ouais, il a le minimum légal, hein, quand même, en termes de rémunération, sans les charges sociales.
Mais, oui, mais s'il travaille dans son pays, il va pas être rémunéré de la même manière.
Sûr,
voilà.
c'est sûr.
L'objectif, c'est quoi? C'est d'être dans la logique de contrat individualisé. C'est le retour au 19e siècle. Par personne, sans droit et sans faire passer barrage à la loi et à la Constitution. Donc ça, c'est la mise en œuvre de ce projet qui est le rêve du patronat. Il faut savoir que la deuxième partie de cette logique, c'est quoi? Bah, c'est la diminution généralisée des dépenses sociales. Puisque... il est nécessaire, d'après le semestre européen et différentes commissions européennes, que d'identifier les sources d'économie sur la sécurité sociale, les collectivités locales, les retraites complémentaires, les retraites de base grâce aux encouragements pour travailler plus longtemps. Donc c'est vraiment une logique claire. On veut faire passer l'argent public, nos cotisations, c'est-à-dire le produit de ce que l'on crée en termes de richesse monétaire, manufacturière, et qui nous donne des garanties selon le contrat social qui a été établi par le Conseil national de la Résistance en 1945, il doit être mis en charpie, ainsi que le Code du travail de 1906 et 1910. Voilà, c'est le retour au 19e siècle. Donc la deuxième phase, ça va être la diminution donc des dépenses sociales, hein, avec tout ce que ça comporte comme risque, hein, comme modifier la fixation du salaire minimum. Parce que que veut faire la Commission européenne, sachant que les commissaires européens, ils n'ont aucune légitimité démocratique. C'est pas des élus du peuple.
Non, ils ont été nommés.
Et donc derrière, il y a le lobby de tous les non-libéraux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite? L'objectif de cette loi, c'est la baisse des salaires réels en France, pour que les Français travaillent plus mais gagnent moins. C'est pour ça que la Commission européenne veut pas entendre parler d'augmentation du SMIC, comme si on pouvait vivre avec 1154 euros nets par mois sur Paris et la région parisienne, mais même dans les autres provinces. Hein. Évidemment, je viens de le dire, la Commission européenne veut diminuer les prestations de sécurité sociale, sachant qu'il n'y a eu aucun débat démocratique de la part du citoyen qui subit les conséquences de cette logique.
Et surtout, c'est partant de chômage de masse et d'austérité. Donc,
absolument.
C'est pour dire que, ils vont finir par tuer le malade avec leur remède.
Donc, il y a eu des recommandations du Conseil européen, hein, avec 260 préconisations du 13 mai 2015. C'est pour ça que ça apparaît, la loi El Khomri. Et donc, le projet de loi El Khomri, il découle directement des recommandations du Conseil européen. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un combat salarié-patron.
Franco-français non plus.
On franco-français.
Est dans...
on est dans des hauts fonctionnaires technocrates qui ont l'emploi garanti à vie, du fait de leur statut de haut fonctionnaire, ou équivalent, qui ont des rémunérations qui ne sont absolument pas du commun
c'est
des
pas
mortels.
Décent, c'est pas décent, alors.
Qui ne sont pas du commun des mortels. Qui sont légales, mais pas du commun des mortels.
Tout fonctionnaire européen, tu ne payes pas d'impôts. Hein.
Voilà. En plus.
Hein, ce sont des, ils sont hors cadre de loi.
C'est, quand même, c'est minimum 10 000 euros par an, par mois. Hein,
oui, oui, minimum. Ils n'ont pas les niveaux de vie de tout ce que le monde du travail est privé ou public en termes de salaire, selon les corps, les grades, etc. Mais il faut savoir qu'ils sont dans cette idéologie. C'est les disciples d'Hayek, c'est les disciples du capitalisme, hein, avec différentes Simpsons et tout. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, ils veulent détruire tous les éléments de la protection sociale, parce que pour eux, bah, la croissance des dépenses de sécurité sociale, quelle qu'elle soit, ça ralentit la croissance et donc l'enrichissement du privé. Ils veulent baisser les retraites, ils veulent étrangler les collectivités locales, casser le mécanisme de fixation du salaire minimum, c'est un de leurs rêves. Et le l'objectif final, c'est quoi? C'est affamer les privés d'emploi pour les amener à ce moins-disant social, hein, avec les coupes sombres, etc. Donc, conclusion
de notre analyse.
Voilà, de M. Nikonov. L'Union européenne impose des politiques d'austérité, notamment des réformes structurelles du marché du travail, qui consistent à affaiblir les droits et les protections des salariés face aux risques sociaux. L'exemple emblématique est celui de la Grèce, avec un double résultat très positif pour les créanciers qui ont recouvré leurs capitaux avec profit, très négatif pour la population qui est frappée d'un recul social invraisemblable. Ces politiques empêchent la reprise en emploi et à terme le remboursement lui-même de la dette publique. L'euro interdit l'ajustement des monnaies par le taux de change et impose la compétitivité par la baisse des salaires et la déréglementation du travail, c'est-à-dire une concurrence acharnée entre pays dont les salariés font les frais, alors que l'Union européenne avait pour ambition affichée la coopération. La lutte contre la loi El Khomri pour être victorieuse doit intégrer la nécessité absolue de sortir de l'euro et de l'Union européenne unilatéralement et sans préavis. Voilà.
Très bien. Alors pour le coup, cette loi est mauvaise, donc il faut la retirer, Ludo.
Bah apparemment, mais je voulais juste faire une remarque par rapport à ce qu'a dit Christophe. Deux choses, hein. C'est qu'il y a aussi une critique qui vient des petits entrepreneurs qui travaillent en France, qui sont contre le dumping fiscal en France. C'est-à-dire qu'ils considèrent que finalement, si la loi El Khomri est adoptée, ils seront plus dans une logique de concurrence loyale vis-à-vis de leur collègue concurrent qui, lui, s'il a pression sur, s'il a barre sur ses salariés, pourra les faire travailler plus, alors que lui, il s'imposera des règles. Donc en fait, on tirera tout le monde vers le moins-disant social. Hein, voilà. Donc il y a même des chefs d'entreprise qui cette loi ne plaît pas, contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Et la deuxième remarque, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout établi que, comment dire, en jouant sur la réglementation du travail, on fasse baisser le chômage. Puisque en l'occurrence là, je veux dire, François Hollande l'a reconnu hein, tout de suite. Bon, bah, le chômage il va pas baisser tout de suite avec cette loi, c'est sûr. Mais évidemment, c'est la remarque évidente, c'est pas parce que tu précarises. Les gens qui sont en place, non, les gens qui sont en place, parce que c'est ça en fait, les gens à l'extérieur, ils vont pouvoir rentrer forcément plus facilement. Je veux dire, à part que ceux qui sont en place peuvent se faire virer, mais même en dehors de ça, c'est-à-dire que quand tu tires les salaires vers le bas et que tu précarises les contrats de travail, comme aux États-Unis, voire même comme en Allemagne, en fin de compte, on s'aperçoit que les gens finissent par déserter le marché du travail lui-même. Parce qu'en fait, le taux des gens en emploi, par exemple aux États-Unis, est le plus bas depuis les années Reagan.
4%, c'est-à-dire... je crois, à peu près.
Alors, oui. Non, c'est pas le taux de chômage. C'est le taux des personnes qui sont en emploi qui sont, c'est-à-dire qui sont, y compris des chômeurs. C'est-à-dire qui recherchent un emploi, qui se déclarent population active, qui travaillent ou qui sont en recherche d'emploi. Eh bien, c'est le plus bas parce qu'il y a des gens, les boulots sont tellement merdiques qu'on leur propose, hein, c'est tellement bas, puisque aux États-Unis, il n'y a pas de salaire de minimum légal. C'est-à-dire le minimum légal, que les gens ne recherchent plus un travail. Et à contrario, en Allemagne, depuis qu'on a mis en place depuis qu'on a mis en place le salaire minimum, eh bien les gens reviennent sur le marché du travail. Parce qu'on leur propose des conditions plus décentes, parce qu'effectivement, dans les services, c'était devenu une catastrophe. Donc, je veux dire, effectivement, hein, précariser tout le monde, bah, oui, non, c'est pas un bon remède au chômage.
C'est clair. Donc, ce qui serait intéressant peut-être à dire, c'est que une bonne loi, s'il fallait faire une loi sur la réforme du travail, serait effectivement une loi qui va vers le mieux disant, c'est-à-dire 32 heures par semaine, partager du travail.
Et surtout, c'est la baisse du temps de travail pour
exactement,
tout le monde.
32 heures, 32 heures.
C'est ça, quand on veut augmenter la durée légale du travail, ben oui, ça crée plus de chômage d'une certaine façon. Je veux dire, à moins de prouver que faire travailler quelqu'un plus, ça débloque, ça crée des emplois, j'en suis pas sûr.
Alors, si tu poses la question à un employeur, un patron, de savoir combien d'heures il fait par semaine, il va te répondre 60 heures, lui. Il va dire, si je l'ai fait, tout le monde
mais
peut les faire.
Pas forcément pour le même salaire aussi.
Sauf qu'il n'a pas le même salaire et que lui, ses 60 heures, c'est quand même 30 heures en conseil d'administration et 30 heures en repas d'affaires,
c'est vrai que ça serait bien de sortir de la dichotomie patron, et employé, sachant qu'il y a aussi des petits patrons, qui se payent pas forcément et voilà, et qu'il y a pas trop de patrons.
Non, c'était une blague.
C'est une boutade,
absolument. Bon, alors, moi, cette émission est en train de se terminer, donc merci à tous les deux d'y avoir participé. Tu avais quelque chose à dire?
Oui, je voulais juste parler des chiffres du chômage.
Ah, chiffres du chômage,
si on a
bien
deux
sûr,
minutes,
bien
c'est
sûr.
Trop tard. Oui, non, bon, d'accord, c'est trop tard.
Il y a eu
soi-disant une petite polémique qui est née, et donc sur France Inter, on a entendu Michel Sapin dire « Oui, le chômage au sens du BIT en France baisse !»
De 0,0001%.
Alors je tiens à dire à ce micro que c'est un mensonge éhonté. Que les choses soient bien claires, chiffres en main. Hein, je veux dire, les chiffres, il prend la référence du BIT, donc c'est effectivement les chiffres de l'INSEE. Selon la norme du Bureau international du travail, donc effectivement le BIT reprend peut-être les chiffres du chômage de l'INSEE et puis en fait on pense à ce qu'il veut dire, mais en réalité le taux de chômage est à peu près stable depuis août 2014. Il baisse et il augmente de 0,1% chaque trimestre.
D'accord.
Point. Voilà, grosso modo. Alors l'INSEE anticipe peut-être une baisse de chômage. Mais c'est pas, elle anticipe seulement. Hein.
Merci pour cette clarification, Ludo. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Alors, je rappelle quand même que les syndicats il y a une entité syndicale au niveau mondial qui soutiennent les manifestations de Paris sur la loi travail. C'est à peu près environ 9 millions de personnes.
C'est le syndicat européen?
Oui, le syndicat européen. Et même hors Europe, puisque apparemment il y a eu dans les réseaux sociaux une indication. Mais ce sont des chiffres à vérifier quand même. Donc merci pour avoir écouté cette émission, messieurs, dames. Nous nous retrouvons dans un mois. Cette émission se termine. Bisous aux filles et poignées aux garçons. Voilà. À bientôt.
Merci.
Bonsoir.
Ciao.